partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous en ligne Sarah Feinberg, qui est chercheuse et professeure à l'Université de Tel Aviv, mais également à l'Université de Georgetown aux États-Unis. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un projet plus personnel, puisqu'elle travaille sur un documentaire très important, un vrai travail de mémoire sur la vie de son père, Victor Feinberg. Elle est avec nous en ligne pour nous en parler et pour nous expliquer un petit peu l'origine de ce projet. Bonjour Sarah.
Bonjour Emmanuel.
Alors tout d'abord, je tiens à dire que vous êtes au chevet de votre papa aujourd'hui, à qui nous souhaitons un très très prompt et rapide rétablissement. Sarah, votre père Victor Feinberg était ce qu'on appelle un dissident et un grand défenseur des droits de l'homme du temps de la Russie soviétique. Il a été un des 7 participants à la manifestation de la Place Rouge en 1968. Votre père a eu une vie très très compliquée et en même temps une vraie vie de militant. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur les grands traits, sur les grands points de sa biographie.
Oui, Emmanuel. Alors, mon père, Victor Feinberg, est né dans une famille juive à Kharkov en 1931. Après pendant la guerre, ils ont été évacués comme nombreuses familles juives de l'Ukraine orientale en Asie centrale. Là, évidemment, il a été exposé, comme la plupart des Juifs de sa génération, à un antisémitisme féroce de la part des jeunes enfants et adolescents de Bouzoulouk au Kazakhstan où il se trouvait. Donc on est en 1941-1942. Après la guerre, la famille doit déménager à Leningrad. Les maisons des Juifs ont été saisies par les Ukrainiens. Et à Leningrad, petit à petit, il va rejoindre, si vous voulez, dans l'esprit de l'après-guerre et des conversations avec les anciens soldats de l'armée rouge, le mouvement contestataire, le mouvement dissident. Il va rejoindre les cercles de la dissidence politique à Leningrad, donc à Saint-Pétersbourg avant, et au mois d'août 1968, dans la nuit du 20 au 21 août, les chars soviétiques vont envahir la Tchécoslovaquie en réponse au fameux printemps de Prague, à ce mouvement modeste d'humanisme, d'humanisation du socialisme en Tchécoslovaquie. Et face à l'écrasement du printemps de Prague, il rejoindra de manière secrète la manifestation du 25 août 1968 sur la Place Rouge, au cours de laquelle 7 personnes se sont rassemblées pour protester contre l'écrasement du printemps de Prague. Elles se réunirent au pied du fameux Lobnoe Miesta, c'était la tribune circulaire où les oukases du tsar étaient autrefois proclamés, où autrefois s'exécutaient les exécutions publiques des opposants politiques sous l'Empire tsariste. Et à midi Place Rouge, ces dissidents arborèrent un drapeau tchécoslovaque et une série de slogans dont le plus célèbre fut « Pour votre liberté et pour la nôtre ». Et ce slogan deviendra un mot de ralliement des dissidents d'Europe orientale dans les années 70 et 80 et plus tard dans la Russie de Poutine. Ces 7 personnes furent arrêtées par le KGB. Mon père eut immédiatement toutes les dents brisées, puisqu'il a été traité de sale juif et il a eu les dents brisées par une valise du KGB qui était remplie d'objets très lourds. Et comme il était imprésentable à son procès, puisqu'il était son visage n'était plus présentable, si vous voulez, on voyait bien qu'un subis avait été subi. Il a été interné en prison psychiatrique, condamné fou par le régime soviétique, et ces 5 minutes de liberté sur la place Rouge furent payées de 5 années et demie d'internement psychiatrique à la prison de l'Arsenal à Léningrad, donc qui existe encore aujourd'hui, de 1968 à 1973, où les détenus politiques et les patients, les vrais malades psychiatriques, subissaient sans aucune distinction, isolement carcéral, injection de neuroleptiques, aminazine, sulfasine, haloperidol. Pour les psychiatres parmi les auditeurs, ces médicaments sont tristement connus. Emmaillotement forcé dans des draps mouillés brûlants, intimidation violente, obligation d'aveu de folie, éloignement des proches. Donc ce fut, si vous voulez, une des mises en acte les plus radicales de la violence du régime soviétique contre les opposants politiques. Et la seule arme, si vous voulez, de ces détenus en prison psychiatrique, était la grève de la faim. Et il se trouve que mon père aura mené une des grèves de la faim les plus longues de la période de l'après-stalinisme. La plus longue fut celle qu'il mena en 1971, une grève de la faim de 81 jours, à l'issue de laquelle il pesait 46 kilos. Mon père a été libéré dans des circonstances absolument fortuites et qui relèvent, dans ma perspective personnelle, du miracle. Vous savez, on dit Baruch Atah Hashem Ameh Tirasurim, béni sois-tu celui qui libère les prisonniers. En fait, un des médecins psychiatres de cet établissement, cette prison psychiatrique à Léningrad, le capitaine Lev Petrov, a été ému par la détermination sans relâche de mon père et lui a proposé de se faire l'intermédiaire de ces messages. C'est-à-dire que quand mon père déclarait des guerres de la faim, dans l'isolement carcéral de ces geôles psychiatriques, ce psychiatre, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de l'Union soviétique, général du KGB, il faut imaginer la défection et le risque qu'il prenait, a décidé de faire passer à l'Ouest, à des journalistes occidentaux, à Leningrad et à Moscou, ces déclarations de grève de la faim. Ce qui fait qu'un homme déclarait une guerre de la faim dans un isolement total, on n'était pas à l'époque de Facebook, hein,
Bien sûr.
et que le soir même, ces déclarations passaient à la BBC ou dans la presse américaine. Et cela a permis de lancer une campagne internationale en sa faveur, et cela a facilité sa libération en 1974, où il a été en fait expulsé en Israël, déchu de la citoyenneté soviétique, et c'est ça qui lui a permis de passer à l'Ouest.
Baruch HaShem, j'ai envie de dire. Alors, à partir de cette expulsion forcée, votre père a sillonné un petit peu le monde. Il a vécu en Angleterre, mais aussi en France. Et il est passé également par Israël à l'époque de l'expulsion des habitants du Gouch Katif. Et depuis, vous n'avez de cesse, Sarah Feinberg, de transmettre et de raconter son histoire et surtout tout le combat de ces hommes et de ces femmes, juifs ou pas, qui ont milité toute leur vie pour les droits de l'homme et pour la liberté. Alors aujourd'hui, votre projet, c'est ce documentaire qui est très important, ce documentaire qui est en train d'être réalisé par des documentaristes russes. Alors racontez-nous un petit peu comment l'idée du documentaire vous est venue et puis comment se déroule ce tournage.
Oui, alors Emmanuel, le 25 août 2018, pour le cinquantenaire de la manifestation de la Place Rouge, je me suis trouvée à Moscou, sur la Place Rouge à midi, où en fait, à l'initiative de combattants pour les droits de l'homme en Russie aujourd'hui, dans la Russie de Poutine, les enfants des manifestants de la Place Rouge ont participé à une manifestation mémorielle. Seulement, au cours de ces 5 minutes, la plupart des manifestants ont été arrêtés, transférés dans des postes de police. La manifestation avait été interdite par la mairie de Moscou. Nous nous sommes retrouvés le soir à faire une cérémonie, mais ça a été extrêmement difficile. Et si vous voulez, j'ai compris de manière immédiate et très concrète que la mémoire de ces dissidents d'ex-Union soviétique était en fait non légitime pour le régime de la Russie de Poutine aujourd'hui, et à quel point leur réhabilitation était difficile.
C'est ça.
Si vous voulez, mon père a été, sa mémoire a été portée par la République tchèque. Il a reçu la médaille du président de la République slovaque en 2014. Il est devenu citoyen d'honneur de la ville de Prague en 1990 des mains de Václav Havel lui-même. Il a reçu la médaille Gratias Artis de la République tchèque en 2016. Mais il n'y a eu aucune réhabilitation officielle de la Russie d'aujourd'hui, aucune réhabilitation symbolique. On a voulu lui remettre une médaille qui s'appelle Hâte-toi de faire le bien, mais une médaille remise par Poutine est problématique lorsqu'au même moment, des centaines de personnes sont envoyées dans des camps d'internement, dans des prisons, même dans des prisons psychiatriques aujourd'hui. Donc, face à cette délégitimation de leur mémoire, je me suis adressée à deux documentaristes russes qui s'appellent Ksenia et Kirill Sakharnov. Il s'agit de deux jeunes personnes très engagées pour le combat de la mémoire pour les dissidents, qui prennent beaucoup de risques pour documenter cette mémoire et la faire connaître à un public plus large, qui ont immédiatement accepté de faire un film sur mon père. Et en fait, elles ont passé des heures et des heures d'entretien en France, en Russie, en Israël. Elles ont rassemblé énormément d'archives et elles arrivent aujourd'hui à terme de ce projet pour publier ce film, en fait, le faire sortir en novembre 2021, à l'occasion, je l'espère, des 90 ans de mon père, d'abord à Prague, mais aussi en Israël.
Donc ce sera un film qui est un film en russe, mais qui sera sous-titré dans différentes langues, en anglais, en français et j'espère aussi en hébreu. Et vous êtes donc aujourd'hui en post-production au niveau, on va dire au moment du montage du film, et on fait appel au public, comme ça se passe beaucoup aujourd'hui dans la production cinématographique, pour faire un appel à tous ceux qui souhaitent participer à l'élaboration de ce film, à sa sortie et à sa diffusion. C'est une main tendue envers la réhabilitation et le travail de mémoire que vous faites, la réhabilitation de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour le combat des droits de l'homme et de la liberté, et également un travail de mémoire fondamental pour les générations futures, Sarah. Donc, comment est-ce qu'on peut faire si aujourd'hui on souhaite participer à l'élaboration de ce projet?
Alors, ce projet est effectivement financé de manière collective par une association de mémoire tchèque qui s'appelle Post Bellum. Il s'agit d'une association non gouvernementale qui rassemble des fonds pour faire honneur à la mémoire d'anciens dissidents et de combattants pour les droits de l'homme en Europe de l'Est, en Europe orientale, pendant la période soviétique. Alors, sur ma page Facebook, il faut écrire Sarah Feinberg, j'ai publié un lien vers la page de cette association et un lien d'appel à dons pour ce film en particulier. Et sur cette page, on trouve la description du film, le trailer du film, également un appel à dons avec des sommes modestes, 10 euros, 20 euros, mais chaque contribution compte.
Bien sûr.
Pour mener à bien ce projet. Et je tiens à dire que ce film s'intitule Victor Feinberg, Acharaï. Il a un titre en hébreu. Acharaï, évidemment, est l'appel au combat des officiers de l'armée de Tsahal et signifie je pars au combat en premier, je mets ma vie en péril en premier avant celle de mes soldats et je prends la pleine responsabilité de mon combat, y compris au prix de ma propre vie. Et je pense que ce titre, Acharaï, si vous voulez, cristallise une forme de symbiose du combat dissident des dissidents juifs. Ils étaient à la fois animés par le combat pour les droits de l'homme, un combat universaliste pour la vérité et la justice, mais également animés par une profonde éthique juive dans laquelle ils ont grandi, fussent-ils pratiquants, religieux ou pas, une éthique juive de souci de la vérité, de souci de l'autre et d'engagement pour le bien. Et donc, je pense que ça cristallise également le combat d'hommes et de femmes qui ont, au péril de leur vie, combattu en tant que juifs en ex-Union soviétique pour les droits de l'homme.
Alors, Sarah, je voudrais vous poser une dernière question. Et là, je ne m'adresse pas à l'historienne, à la chercheuse. Je m'adresse à la fille de Victor Feinberg. Cette histoire, l'histoire de votre famille est une histoire passionnante, mais en même temps, j'ai envie de dire, une histoire très lourde à porter, j'imagine. Vous-même, vous avez un parcours passionnant. Aujourd'hui, vous vivez en Israël avec votre famille, vous élevez vos enfants sur la terre d'Israël comme une femme libre. Comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous avez synthétisé ce travail de mémoire, ce travail pour la réhabilitation de la vie de votre père et de ses compagnons, mais également votre propre parcours personnel, Sarah Feinberg.
Emmanuel, en fait, moi, j'ai grandi à Paris dans un milieu de dissidents. Pour moi, il était tout à fait normatif d'avoir passé 5 ans en prison psychiatrique. J'ai passé mon enfance, si vous voulez, à laver le dentier de mon père. Je pensais qu'il était tout à fait normal d'avoir des dents brisées. J'ai passé une enfance un peu dans ce monde-là, j'ai été pétrie de ce monde-là, j'allais petite à toutes les manifestations pour Sakharov ou pour d'autres dissidents, Boukovski ou Amalric, devant l'ambassade soviétique à Paris. Donc mes parents m'ont transmis cette idée ou ce principe selon lequel on ne peut pas vivre tranquille, on ne peut pas vivre pour soi et il faut toujours frémir ou s'inquiéter du monde tel qu'il va. Et donc, j'ai reçu ce principe, si vous voulez, dans le lait maternel ou paternel, si je puis dire. Pour moi, très tôt, très très tôt, dès l'âge de 16 ans, 17 ans, il n'y avait qu'une destination possible, c'était Israël. Et si vous voulez, moi, ma manière de mener ce combat, c'est de vivre en Israël, de combattre pour mon pays, à mon tout petit niveau, d'élever mes enfants en Israël. Et pour moi, c'est la meilleure réponse et peut-être une forme de petit triomphe face à la violence du régime soviétique qui a voulu écraser ce combat qui est également, à mes yeux, un combat juif. Donc voilà.
Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la communauté russe en Israël, tout d'abord avec les anciens dissidents ou les anciens militants pour la liberté? Quel est votre rapport également avec la Russie de Poutine aujourd'hui?
Alors, avec les anciens dissidents, je les vois souvent. Nous formons une famille, un cercle d'amis très proches, unis par cette mémoire, unis par
parents
ces
et enfants.
Images.
Parents et enfants.
Oui, parents et enfants également. Oui, tout à fait. Et puis, je suis unie également avec beaucoup de dissidents et d'enfants de dissidents en Amérique, en France, en Allemagne, mais également en Russie. Et mon lien à la Russie des Poutines, écoutez... Moi, je travaille avec beaucoup de collègues russes et je travaille toujours à deux niveaux, un niveau professionnel et un niveau, je dirais, mémoriel. Donc, je travaille sur plusieurs canaux de communication et j'ai toujours, si vous voulez, contrairement à beaucoup de gens qui pensent que ce régime est éternel, moi, je sais par l'histoire de mon père et par l'histoire russe en général, qu'aucun régime n'est éternel. C'est-à-dire que les régimes passent, mais c'est pour ça qu'il faut combattre pour la mémoire. Et même si cette mémoire n'est pas légitime aujourd'hui, elle le sera un jour.
Et c'est ce travail de mémoire-là que vous faites également en Israël, j'ai envie de dire à la maison, avec vos enfants aussi?
Oui, mes filles grandissent également dans cette mémoire. Mes filles écrivent sur l'histoire de mon père. Elles ont écrit Elles ont d'ailleurs eu un prix du ministère de l'Éducation pour raconter cette histoire familiale. Vous savez, en Israël, chaque enfant doit écrire l'histoire de ses racines. Ça s'appelle Avodat Shorashim. Donc, elles l'ont écrite également. Et mes filles, évidemment, apprennent le russe et sont très proches de cette histoire. Et en fait, ce que j'essaye de leur enseigner, je ne sais pas si j'y arrive, c'est qu'on vit en Israël pour notre histoire, mais aussi pour les nations. C'est-à-dire que le combat dissident, le combat des juifs dissidents, était un combat à la fois porteur d'éthique juive et porteur d'un certain message juif pour le monde et porteur d'universalisme. Et j'ai l'intime conviction qu'Israël doit rester cela, doit rester dans ce carrefour, à la fois effectivement dans le particularisme juif et dans l'éthique juive et sioniste, mais également dans un message aux nations, dans un message pour le monde. Il ne faut pas renoncer à cela. Il ne faut pas que nous nous enfermions dans une société judéo-juive qui n'a plus le souci des nations et qui n'entend plus les nations.
Est-ce que vous avez le sentiment que les médias aujourd'hui sont sensibles à ce message?
Non, 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 les médias, vous savez, sont dans l'immédiat, sont dans l'urgence, sont dans l'instantané. Et là, il s'agit d'un travail très profond, si vous voulez. Il s'agit d'un travail un travail sur nous-mêmes. Je pense qu'un juif ne doit jamais oublier en lui qu'il a une partie juive en lui, mais il a également une partie universaliste en lui qui fait pleinement partie de sa judéité. Et je crois que une mission qu'Israël doit mener. Nous sommes quasiment à l'issue du premier siècle israélien, du premier triomphe, du siècle triomphant israélien. Et il faut que ce siècle reste teinté d'universel.
Alors, pour tous ceux qui souhaitent participer à ce travail formidable et fondamental de mémoire et de réhabilitation, pour participer à ce documentaire Acharaï sur l'histoire de Victor Feinberg, eh bien, on se rend sur la page Facebook de Sarah Feinberg et c'est tout simple. Et il suffit juste de tendre la main et du coup, eh bien, ce travail se fait en collectivité. C'est un travail qui rejoint ce que vous disiez sur l'universalisme, c'est-à-dire que où chacun se tend la main pour aller vers l'autre. Merci beaucoup, Sarah Feinberg, pour ce témoignage très, très émouvant et bonne santé à votre père. Merci.
Merci, Emmanuel Ada.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.